Les orages maléfiques, chapitre 26. Ils passèrent trois journées idylliques à ne penser qu'à admirer les fleurs, les bois, les collines et le lac. Tout le reste leur semblait loin. Ils auraient voulu que cette parenthèse dure l'éternité. Après une fin d'année et le début de la suivante chaotique, ils savouraient ces instants de bonheur partagé. La voiture fut mise au repos. Ils marchèrent sur les sentiers, s'extasiant sur une fleur, admirant la mélodie d'un oiseau et méditant sur eux-mêmes. Bien sûr, ils pensèrent à la maladie, mais dans leur état d'esprit du moment, elle n'eut pas le droit de s'immiscer. Le couple formé par Rindra et leur fils aîné revint sur le tapis. Ils étaient heureux de les savoir sortis d'affaires, mais ne pouvaient s'empêcher de penser à ce petit héritier qui ne verrait jamais le jour à cause d'un virage mal négocié. Ils parlèrent abondamment, mais ici, il n'y avait aucune notion d'urgence. Ils causaient en toute sérénité. Leurs questions restaient sans réponse. Même avec le temps, ils ne comprenaient toujours pas le comportement de leur belle-fille. Cela les chiffonnait. Ce secret revêtait à leurs yeux beaucoup d'importance. Ils laissèrent avec regret la Quinta do Barranco, en se promettant de revenir un jour prochain. Ils se rendirent dans les villages autour de Faro, mais ne trouvèrent que des villégiatures pour touristes anglais et allemands. Les lieux ne correspondaient pas à leur attente. Ils préférèrent s'enfoncer dans l'arrière-pays, une contrée où l'authenticité n'était pas qu'un mot. Ils se dirigèrent en direction de Monchic. Une fête se déroulait dans le village, situé un peu plus haut à 5 kilomètres. Ils découvrirent des villageois tout de noir vêtus. Les cloches se mirent à sonner, un enterrement se déroulait juste avant que ne débutent les festivités. Pendant la cérémonie, la place se vida. Seuls des voyageurs égarés déambulaient dans les rues de la cité. Ils en profitèrent pour chaparder deux fruits sur un oranger. Ils quittèrent la commune pour visiter les environs. L'eucalyptus, avec son odeur caractéristique, régnait sur la forêt. Ils tournèrent dans les lacets de la route qui les emmena vers un belvédère qui dominait la Serra de Monchique. Le point de vue permettait de voir jusqu'à l'océan. Le panorama offert valait le déplacement. Ils restèrent un moment à scruter l'horizon. Une brise venue du bord de mer prit le relais des eucalyptus. Une odeur iodée parvenait à leurs narines. Lorsqu'ils revinrent au village, la fête battait son plein. Les stands offraient des produits locaux à déguster. Ils ne s'en privèrent pas. Ils n'avaient pas mangé. Deux tranches de gâteau fourrées à la confiture de figues colmatèrent les petits creux à l'estomac. Pendant ce temps, les organisateurs effectuaient les derniers réglages du spectacle qui débuterait dans quelques minutes. Un groupe chauffa les spectateurs par des rites contemporains. Mais le clou de la journée fut un chanteur qui s'exprima longuement. Il chanta une seule chanson qui dura plus d'une heure. C'était le dialogue d'un ménage en grand désaccord. Les autochtones riaient à gorge déployée. Les mimiques et les phrases de ce troubadour enchantaient l'assistance. Même ceux qui ne comprenaient pas la langue portugaise succombèrent sous le charme. Le vent du soir amena la pluie, et tout ce beau monde commença à se replier. Ils rejoignirent la Clio et regagnèrent leur chambre d'hôtel. Le contraste avec leur villégiature précédente leur sauta aux yeux. Le confort n'était pas le même et le site ne pouvait rivaliser avec Paradise in Portugal. Ils décidèrent de ne pas s'attarder et de se diriger au plus vite vers l'Alentejo et la localité d'Évora. Après une bonne nuit de sommeil, ils prirent la route. Les paysages défilaient. Le relief, moins accidenté, ressemblait un peu à la Toscane. Les fermes blanches dominaient les sommets des collines. Les chênes lièges prenaient le relais des eucalyptus. Ils rejoignaient le domaine des cigognes. Des nids sur les cheminées et sur des poteaux aménagés. Elles régnaient impassibles sur la région. Ils n'en avaient jamais vu autant. Ces volatiles s'épanouissaient ici en toute tranquillité. Le climat leur convenait parfaitement. Le blé poussait au pied des arbres. les troncs sans écorce se remarquaient à leur couleur rougeâtre, tandis que les autres oscillaient entre le gris et le marron. Chacun recélait une marque permettant de l'identifier et de planifier la récolte de ce liège si précieux, le pays étant le premier producteur mondial. Ils poussèrent jusqu'à Port-Alegre. Ils avaient jeté leur dévolu sur une maison de charme baptisée aussi Quinta, qu'ils avaient trouvée dans un guide spécialisé dans les chambres d'hôtes, présentant un attrait particulier. Située à l'écart de la cité, la résidence de style mauresque ne manquait pas de caractère. Citronniers et orangers formaient une haie ombragée menant à la piscine. Des moutons broutaient l'herbe haute et des lapins gambadaient le long des murets où se trouvaient leurs terriers. Ce tableau champêtre incitait aux farniente. Ils passèrent de longs moments dans ce cadre bucolique. Ils déambulèrent dans la vieille ville, montèrent jusqu'au château et visitèrent la chapelle. Sur la place principale, les étals du marché attiraient le chaland. Ils prirent du plaisir à se mélanger aux acheteurs locaux. Ils savouraient là toute l'authenticité, la chaleur et la rusticité de ces gens. Ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Le repas du soir se passa dans un lieu insolite. Au fond d'une ruelle étroite, un barbecue confectionné dans une moitié de bidon répandait sa fumée et les effluves des grillades leur chatouillèrent les narines. Ils s'approchèrent et comprirent vite l'intérêt d'entrer dans cette gargote. Dans un local aménagé dans une cave se trouvait une salle au décor surprenant. De grandes tables étaient disposées sur un sol de terre battue. Des jarres énormes comblaient le fond de la pièce. On se serait cru dans la caverne d'Ali Baba. Des voleurs cachaient à l'intérieur des récipients qui servaient encore récemment à stocker le vin. Ils s'installèrent. Il y avait seulement 2 places de disponibles. Ils n'en demandaient pas davantage. Ils voisinèrent avec une famille anglaise dont le père maîtrisait parfaitement la langue française. Cet homme avait dirigé le département français d'une multinationale qui produisait des rasoirs connus sur toute la planète. Ils sympathisèrent et échangèrent quelques propos sur le Portugal. Ils possédaient une maison dans la région de Setúbal où leur fille enseignait l'anglais. Le repas, simple et copieux, les combla d'aise. Le bon vin et le voisinage agréable firent le reste. Ils ressortirent les joues roses et le verbe haut. Ils avaient bu plus que de raison. Heureusement pour eux, la marée chaussée ne sévissait pas avec zèle et célérité comme en France. Ils purent réintégrer la Quinta en roulant doucement, puis s'endormir en rêvant au divin liquide qui s'échappait des jarres pour remplir leurs verres. Malgré l'abus de la soirée précédente, ils se réveillèrent en pleine forme et décidèrent de se rendre à Évora. Ils connaissaient bien la ville et y retournaient avec joie. Ils hantèrent à nouveau la cathédrale et esquivèrent la chapelle des os aux murs constitués d'ossements humains. 5 000 squelettes étaient là, peut-être par économie de matériaux. Sur l'esplanade où se trouvaient les vestiges romains, une manifestation battait son plein. Les employés de la municipalité défilaient pour dénoncer la volonté des élus de confier leur travail à des entreprises privées. Ils avaient choisi un support moderne pour attirer l'attention des passants. Des fourgons publicitaires arpentaient les rues de la ville en scandant des slogans en rapport avec des affiches mobiles apposées sur les supports des véhicules. Chaque panneau, similaire à ceux que l'on voit chez nous, montrait les édiles dans des situations peu flatteuses. Sur l'un d'eux, 3 vautours posés sur un arbre surveillaient le service public agonisant. Un tas d'os s'accumulait au-dessous de la carte du Portugal, accrochée à une branche. La chaise à porteurs transportant le chef du gouvernement ne manquait pas d'attirer l'œil par son côté comique et décalé. Les manifestants joyeux exprimaient leur mécontentement d'une façon originale.